Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. Il y a près d'un mois, l'actualité nous donnait l'occasion, dans ce libre journal de la Défense, de réfléchir à la puissance militaire américaine et à ses limites. Et aujourd'hui, cette même actualité nous donne à réfléchir sur ce qu'est la négociation, sur ce qu'est la diplomatie, et à leur ressort intime, à leur pratique, grosso modo depuis le XVIe siècle, en soulignant, et nous y reviendrons, que la question de la négociation a fait son grand retour dans l'actualité depuis une trentaine d'années, sur fond de complexité accrue des affaires du monde, où, d'une certaine façon, tout se tient, et où la question du sens des mots et leur adéquation à la réalité se pose avec une grande acuité. Et pour évoquer tout cela avec Axel, bonjour Axel.
Bonjour Philippe.
Nous sommes très heureux de recevoir Jean-Noël Benoît. Bonjour monsieur.
Bonjour à vous deux.
Auteur d'un ouvrage publié aux presses universitaires Rhin et Danube, intitulé « Le rêve de Sully, pratique de la négociation, une contribution à l'histoire de la diplomatie ». Mais comme il est d'usage, je laisse à mon vieux complice Axel le soin de vous présenter, cher monsieur.
Voilà, Jean-Noël Benoît, après des études de russe et de lettres à la Sorbonne et à l'EHESS, vous avez effectué votre carrière dans l'éducation nationale, d'abord enseignant de lettres en France et au Maghreb, puis lecteur en URSS, à Krasnodar et Moscou, enfin cadre jusqu'en 2009. Vous êtes maintenant installé en Normandie, plus précisément dans le Cotentin, et vous avez organisé le Salon du Livre de Granville en 2023. Vous avez publié plusieurs ouvrages dans des domaines variés. En 2013, 66 figures de la citoyenneté ordinaire aux éditions Publibook. En 2017, Les aimants, un recueil de poésie aux éditions Stella Maris. De votre expérience de lecteur en URSS, vous avez tiré plusieurs livres. En 2015, aux éditions de Paris, La faucille et la vodka, relation de vos trois années de séjour en URSS. En 2018, Maria Yudina, la pianiste qui défia Staline, Art et culture de l'ombre en URSS, aux éditions de Paris. En 2023, Sergueï Averintsev, une autre dissidence, aux éditions universitaires de Rennes. Et en 2023 toujours, vous avez publié aux éditions UGA de Grenoble « Ma liberté secrète, l'histoire culturelle vue de Russie », un recueil de textes de Sergueï Averintsev que vous avez traduit et présenté, livre qui vous a valu le prix de philosophie de l'Académie des sciences morales et politiques en 2025 et vous a permis d'être présent au Salon du livre d'histoire de Blois. En juillet 2025, donc, vous avez publié aux éditions des presses universitaires Rhin et Danube « Le rêve de Sully », pratique de la négociation, une contribution à l'histoire de la diplomatie. Enfin, tout récemment, en mars 2026, vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Corsaire dans la Manche, légende et réalité.
Eh bien, cette description, cher monsieur Benoît, indique un certain tropisme pour la Russie, son histoire et sa pensée, mais pas que. Mais néanmoins, aujourd'hui, ça n'est pas ni la Russie, ni les corsaires qui vont constituer notre émission, mais bien votre réflexion ancrée, hantée sur l'histoire relative à la négociation et à l'histoire de la diplomatie. Mais avant d'entrer proprement dans notre sujet, une petite question d'ordre presque intime. Et vous le dites dans votre avant-propos, c'est cette motivation de l'écriture de ce livre qui est liée à une considération intérieure. Vous dites « tout homme est partagé et l'objet est le lieu d'un conflit ». Et donc je crois que pour introduire vraiment cette émission, il faut vous laisser la parole pour nous dire ce qui, à l'intime de vous-même, motive ce livre.
D'abord, pour vous remercier l'un et l'autre de m'accueillir sur cette radio. Alors, il n'y a pas de réponse facile et directe à votre question, parce qu'on plonge dans l'intime. Mais c'est aussi, il y a aussi une explication à chercher dans les circonstances de ma vie relativement récente. Commençons par l'intime, oui, en effet. Le développement, enfin l'itinéraire spirituel qui a été le mien, est passé par la reconnaissance, l'identification d'un certain nombre de conflits intérieurs à gérer. J'ai une adolescence qui doit beaucoup à Pascal, à ses pensées, bien sûr, et puis qui doit encore davantage, j'allais dire, à Dostoïevski, c'est-à-dire des auteurs, effectivement, qui à la fois vous mettent en face de l'évidence de conflits à gérer et vous proposent des solutions qui, de toute façon, ne sont pas a priori des solutions ni faciles, ni transposables à tout instant. Bon, c'est une première étape. Je parlais tout à l'heure aussi d'une raison qui est à chercher dans les circonstances. Sauf que, à la fin de mon parcours dans l'éducation nationale, j'ai eu la charge de plusieurs établissements scolaires, en tant que principal de collège en Normandie, de plusieurs collèges, l'un après l'autre. Et chaque fois, effectivement. Alors, une fonction qui vous astreint à un dialogue permanent à l'interne, bien sûr, mais aussi à l'externe. Ma grande surprise a été de constater que, pour l'essentiel, les problèmes venaient beaucoup plus de l'extérieur, c'est-à-dire dans les relations avec les différentes tutelles, que de l'intérieur, dès lors qu'effectivement chacun fait son travail. À l'intérieur de l'établissement, tout se passe en général, on ne peut mieux. Et les conflits, la gestion des conflits s'inscrit dans l'atmosphère préexistante au sein de l'établissement. Ce que je dis là est probablement vrai de toute gestion de groupe en général. Donc déjà, sans me poser de questions sur la négociation, je me suis trouvé effectivement à négocier avec les différentes tutelles, rectorat, préfecture, mairie des Cœurs de Reville par exemple, c'est le souvenir qui m'est resté. Et donc chaque fois effectivement, le mot n'étant pas employé, la réalité est bien celle effectivement de négocier pour aboutir. J'ai usé, sans m'en rendre compte, d'une disposition de tempérament qui est la mienne, à savoir je suis d'un tempérament secondaire. Je sais que ma première réaction n'est pas la bonne, et j'attends donc d'en arriver à la deuxième étape, à la deuxième réaction sur laquelle je sais que je vais pouvoir m'appuyer. Et c'est, sans le savoir, une manière d'ouvrir effectivement une tactique, une manière de faire en quelque sorte, où ce qui importe, c'est l'écoute d'abord, écoute de soi aussi peut-être, et seulement, pas de décision sur le vif, mais lorsqu'on en est effectivement à ce deuxième temps où les choses s'éclaircissent un peu et où effectivement il va être possible de construire une décision, pas tout seul bien sûr, avec les partenaires présents, en donnant le sentiment effectivement qu'on ne s'est pas précipité vers la sortie. J'ai pu constater que le plus souvent, les partenaires vous savent gré, effectivement, d'être pas à tout instant sur le grill, prêt à bondir à droite ou à gauche. Et puis, j'ai eu cette expérience d'il y a maintenant quelques années, en effet, le salon du livre. Il s'est agi de créer de toutes pièces, car toute trace des salons antérieurs avait disparu. Créer de toutes pièces voulant dire établir des partenariats, obtenir des financements, garantir des subventions, et par conséquent partir à droite, à gauche, vers les différents interlocuteurs habituels d'un salon, depuis les librairies jusqu'au Conseil Général, avait encore ce nom à l'époque en tout cas. Donc là aussi, force m'a été de constater que malgré les difficultés, et elles ont pu être assez importantes, les problèmes finissaient par se dénouer, on allait vers des solutions, à payer du prix de quelques nuits blanches quelquefois, mais les solutions, si on savait les attendre, elles arrivaient. Une certaine façon de prendre le temps de se tourner vers les réponses permettait les réponses. C'est un peu comme ça que les choses se sont faites.
Mais alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme déclic qui vous a fait passer votre expérience personnelle à la recherche historique ?
L'affaire ayant été terminée, j'ai passé le relais. La relève d'ailleurs existe encore aujourd'hui. Je me suis dit, mais il faut quand même que j'essaie de comprendre pourquoi finalement. Je ne me suis pas si mal tiré que ça d'une expérience pour laquelle j'étais pas nécessairement à laquelle je n'étais pas nécessairement préparé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'effectivement, en m'interrogeant, je suis tombé, comme par hasard, vous savez que dans ce cas-là, il n'y a pas de hasard, sur un voisin. À 40 km de chez moi, à Torigny-sur-Vire, est né un des grands diplomates de Louis XIV, dont on a assez peu entendu parler, qui s'appelait donc François de Calière.
Et on y reviendra parce que c'est vraiment voilà. Un personnage et donc, aussi intéressant que méconnu.
Ah oui, avec l'appétit de lecture qui est le mien, je me suis précipité de ce côté-là. Tiens, c'est un voisin, il a fait des choses intéressantes, il semble avoir su négocier, je ne me suis pas tiré trop mal des petites affaires qui ont été les miennes, allons-y voir, c'est peut-être un camarade sans le savoir. Et effectivement, j'ai pris la mer en quelque sorte avec François de Calière et j'en ai tiré des... La porte s'est ouverte sur ce monde particulier de la négociation où comme je le disais déjà tout à l'heure, je crois du moins, ou en aparté peut-être, il s'agit bien de passer effectivement de la concurrence, de la compétition plus exactement, à la coopération en trouvant les moyens de s'entendre. Donc je dois beaucoup à la permanence de conflits intérieurs, j'essaie de résumer, à mon expérience, j'allais dire, pas du tout théorique de chef d'établissement, l'expérience du terrain sur laquelle je me suis retourné, et la découverte de François de Calière, diplomate de Louis XIV, à qui nous devons, entre autres choses, un essai aujourd'hui de réputation internationale, et la réussite, bien sûr, du traité de Ryswick, parmi d'autres réussites.
Donc on reviendra sur ces traités qui illustrent, il y a plus de 300 ans, la complexité déjà du monde et la relation entre... la diplomatie, le monde des affaires, le monde militaire. Et c'est pour ça que dans mon introduction, j'évoquais l'actualité de votre ouvrage parce qu'il y a des constantes, des fondamentaux que l'on perçoit aujourd'hui. Et je pense que l'intérêt de cette émission, c'est de donner à nos auditeurs quelques clés de compréhension de ces fondamentaux. Et dans votre livre, vous nous dites quasi d'emblée que la négociation... a connu ces très riches heures, grosso modo, de la fin du 15e, enfin le 16e, le 17e, une partie du 18e. Et puis, malgré les grands traités qui ont suivi la guerre de 14-18, la question de la négociation, dites-vous, elle a semblé être un peu occultée et elle a retrouvé toute son actualité dans tous les domaines de la vie humaine depuis une trentaine d'années. Alors, vous évoquez le livre de Kissinger, « Diplomatie de 94 », mais vous dites aussi que la mondialisation et la globalisation ont rendu plus que jamais nécessaire. Alors, est-ce que c'est un art? Est-ce que c'est une science? En tout cas, l'art de la négociation. Donc, peut-être quelques mots sur ce pourquoi de la remise en lumière de la négociation et puis peut-être définir plus précisément ce que vous entendez comme de quoi s'agit-il, comme disait Foch, à propos de la négociation.
Alors vous mettez devant deux questions...
qui ne sont pas redoutables.
Chacune d'elles pourrait faire l'objet d'une émission. C'est la réponse classique de l'invité qui ne sait pas comment s'y prendre. Très bien. Mais j'ai des choses à dire quand même dans ce domaine. Effectivement, je m'en tiens à François de Calière. Cet essai qu'il publie en 1716 sur de l'art de persuader les souverains, il a attendu la mort de Louis XIV très prudemment parce que il sentait qu'il n'était pas le bienvenu.
Mais juste quelques mots sur le personnage. Il est issu de petite noblesse provinciale où il fait partie déjà des familles de grands commis de l'État. Alors, ou de la noblesse de robe bien en cours.
Son origine sociale est modeste, mais il appartient à une tradition de service des grands, bien représentée effectivement par son père qui a négocié par exemple la restitution de Valognes au moment des guerres religieuses. Et puis, il faut savoir que c'est une affaire d'ambiance. Vous parliez de famille, je joue un peu sur le mot, mais c'est une affaire de famille, cet esprit de la négociation, parce qu'il a un frère, bien plus connu au Canada que lui-même, qui s'appelle Louis-Hector de Calière, gouverneur du Canada. Soit dit entre parenthèses, la connaissance, l'intuition extraordinaire que Louis XIV pouvait avoir des talents et de là où il fallait les mettre. Louis-Hector de Calière tire la France d'un mauvais pas, c'est-à-dire en parvenant au traité de la Grande Paix de 1701, je crois, 1701, par lequel les tribus manipulées par l'adversaire anglais, de toute façon qu'en s'entre-déchirant la France, y perd de pied, et bien donc ces tribus, il parvient, Louis-Hector de Calière parvient effectivement à les faire s'entendre par ce traité de la Grande Paix, et donc à repousser en quelque sorte l'adversaire anglais dans ses propres retranchements qui ne sont plus désormais que militaires.
Revenons à François.
Oui, alors il y a un esprit de la famille, il y a la négociation, et ça marche effectivement. Pour revenir à François, donc en effet, après publication du traité, on n'entend plus parler de lui. La seule explication que je puisse proposer, c'est que l'atmosphère est à la guerre. Le propos de Louis-Hector de Calière est d'aller vers la paix, pour présenter les choses d'une façon extrêmement simplifiée. Donc, tant que le discours reste guerrier, et il sera. Le discours guerrier est celui qui va prédominer tout au long du XVIIIe siècle. Je n'ai pas besoin de vous parler de la révolution de l'Empire, le premier empire. Tant que ce discours-là est prévalent, l'esprit de conciliation qui préside à la négociation qui elle-même est tournée vers la recherche de la paix
disparaît.
D'autant que l'une des idées majeures de François de Calière, c'est que la négociation doit être permanente. Or, si la préparation de la guerre est permanente, il y a un choix de l'esprit qui fait problème, là. Voilà. Donc, disparaît, en effet, avec François de Calière, l'intérêt pour son œuvre. Il y a de très grandes personnalités de la négociation tout au long du XIXe siècle. Donc, l'intérêt pour la négociation demeure à travers les faits, mais pas à travers la recherche théorique. Pas mon ancien Talleyrand, on pourrait continuer indéfiniment. Même Bismarck peut être considéré comme un négociateur à considérer. Alors, le retour sur le devant de l'actualité dans les années 90, je n'ai pas d'explication particulière. En ce qui me concerne, je sais très bien. Étant avide de lecture intéressante, je suis tombé sur Kissinger et j'en suis pas sorti indemne. C'est lui qui m'a aussi donné toute la mesure, effectivement, de ce que c'était qu'une démarche consciente de négociateur. Au-delà de ça, il faut quand même aller chercher une explication vers le développement la globalisation, pour prendre un mot commode, des échanges en général, et particulièrement des échanges dans le domaine commercial. Je ne vais pas vous apprendre que les échanges passent par des accords, particulièrement dans le domaine commercial. Donc la négociation, au sens commercial du terme, vient au premier plan dans les années 90 et entraîne un fort retour d'intérêt pour la négociation éventuellement non commerciale aussi.
Alors est-ce que, sans dévoiler trop de choses, on peut quand même parler d'une rencontre que vous avez faite et qui compte dans le domaine de la négociation. Il ne s'agit pas de négociation diplomatique, mais liée à des affaires notamment de terrorisme. Et on sait que quand on a affaire à des terroristes, eh bien la dimension négociation est importante. Et avant l'émission, nous évoquions de façon large la question de la négociation, mais vous me parliez de ce négociateur du GIGN qui, non seulement a complété votre expérience, mais vous a ouvert quand même des horizons plus larges liés à la question de la négociation. Donc je crois que c'est intéressant que vous fassiez part de cette rencontre humaine.
Alors il y a d'une part la négociation en tant qu'objet de réflexion. Il y a des livres, beaucoup de livres, je l'ai dit tout à l'heure. Et à d'autre part, la négociation en tant qu'expérience vécue, avec le retour sur l'expérience, quand il s'agit de gens qui ont une intelligence particulièrement aiguë de cette expérience qu'ils ont eue. En effet, il s'agit de Laurent Combalbert. Laurent Combalbert a créé, non loin de Montargis, dans la région de Courtenay, un campus d'apprentissage de la négociation, et à l'intention, alors, dans une triple direction, à l'intention des enfants, pour tenter de mettre en place d'inculquer effectivement une éducation à la négociation, une autre orientation à l'usage des industriels, la négociation commerciale, avec toute la place qu'elle occupe, et puis donc aussi la négociation à l'international, même si les diplomates considèrent qu'ils sont au-dessus de ça, ils auraient beaucoup à apprendre. Donc Laurent Combalbert, effectivement, avec son parcours qui est le sien, savoir former à la négociation dans les structures anglo-saxonnes. Oui, je ne me trompe pas, on est au FBI, entre autres choses. Et d'autre part, revient effectivement avec des tâches, enfin, les tâches qui vont lui être confiées seront particulièrement difficiles. D'une part, des négociations avec les FARC en Amérique du Sud. Il s'est retrouvé quelquefois complètement abandonné, obligé effectivement de mettre sa vie en jeu et de s'en tirer par la parole pour que ça ne tourne pas au vinaigre. Et d'autre part, bien sûr, l'avion détourné à Marignane, alors 1994, il se voit confier la négociation, 19 heures de négociation non-stop à la tête de son équipe, avec le résultat qu'on connaisse, les otages sont libérés et les terroristes se rendent. Mais il a à son actif bien d'autres négociations difficiles, en particulier les raptes d'enfants en Amérique du Sud. Donc, il a, à partir de là, à partir de cette expérience, il propose un enseignement extrêmement concret, à base de vidéos qu'on peut aller consulter sur son site, hein, elles sont d'accès libre, dont je vous donne un titre pour avoir une toute petite idée. Par exemple, que faire lorsqu'on est face à un interlocuteur de mauvaise foi? Et je finis en redisant ce que je vous ai peut-être déjà dit, savoir, quand on lui demande, mais comment vous avez appris finalement à négocier? Il dit, bah, j'ai 4 enfants. Il n'y a rien de plus difficile que de... Il n'y a pas de partenaire plus difficile pour la négociation que ses propres enfants. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a le maximum d'affect, avec quand même la nécessité d'aboutir et de se faire obéir. L'interférence de l'affect avec le résultat à obtenir, c'est l'enjeu majeur de la négociation.
Et là, on pourrait dire qu'on est au plein cœur de l'actualité, hein, entre la rationalité et l'affecte quand on pense à l'affaire américano-iranienne. Oui. Alors, voilà, je tenais à vous questionner sur cette référence à ce négociateur du GIGN, parce qu'elle illustre effectivement la place de la négociation dans tous les secteurs de la vie humaine. Mais si je reviens à cette rencontre avec François de Calière, c'est aussi pour que nous revenions sur la place de la négociation dans l'histoire. Et non pas votre tropisme, mais grosso modo, c'est à partir du XVIe siècle que vous commencez à vraiment vous interroger sur la question de la négociation, de la diplomatique, puis de la diplomatie. Mais vous nous dites quand même qu'à le milieu du XVe siècle, déjà, on a un Français, François de Rosiers, qui décrit déjà les qualités qu'on attend d'un agent royal chargé de relations avec les États étrangers. Et puis vous nous décrivez aussi tout ce contexte lié aux caractéristiques de la péninsule italienne, 15e, 16e siècle, ces États, ces micro-États qui cohabitent, qui coexistent, qui sont habitués à négocier et qui vont engendrer tout un peuple, dirais-je, de diplomates, de gens qui vont être habitués justement à traiter des affaires entre eux en vue d'un intérêt commun, tout en ayant au départ des divergences, parce que c'est un peu ça la question de la négociation. Donc on a l'impression, en vous lisant, que voilà, au XVIe siècle, avec la Renaissance, se met en place finalement à la fois la théorie, la pratique de la négociation. Machiavel, pour une part, caractérise cette émergence. Alors, est-ce que vous, qui avez le génie de la synthèse, vous pouvez nous redire qu'est-ce qui se passe dans ce XVIe siècle?
Je commence par récuser le terme de génie. Hein.
Voilà. Alors, mais, voilà. On exerce. Mais toujours pour la compréhension de nos auditeurs. De ce que j'ai compris de votre livre, il se passe quelque chose au XVIe et au début du XVIIe.
Mais j'étais frappé effectivement par le lien qu'on peut établir entre une structuration politique existante. Vous avez évoqué l'Italie qui vit à travers un réseau d'États cités qui passent leur temps à se combattre. Mais d'autre part aussi, on peut remonter jusqu'à la Grèce. La Grèce elle-même est politiquement constituée d'États-cités. Même s'il y a les deux pôles, Sparte et Athènes, ce sont des États-cités qui ont tendance à facilement se combattre. Donc il a existé en Grèce une pratique de la négociation, je n'ai plus le terme exact, mais je le mentionne dans le livre, avec, destinée à aboutir à des ententes circonstancielles permettant de s'opposer à un ennemi plus fort. Bien. C'est encore une parenthèse dans la parenthèse pour dire aussi que Rome n'a pas connu, n'avait pas l'esprit et la négociation. Négocier pour un responsable romain, c'est aller voir son interlocuteur à l'étranger en lui disant « Nous ferons ça, vous ferez ceci, et sinon nous arrivons ». C'était ça l'esprit de la négociation, ça s'appelle le passage en force. Les Romains n'ont pas connu autre chose, parce que c'était un état développé, puissant et homogène. Donc il y a un lien intéressant à établir entre la fragmentation politique et puis la pratique de la négociation. Et c'est la situation de l'Italie, en effet, depuis le XIIIe siècle, je crois.
Et ça va nourrir toute une foule de gens compétents.
Alors, l'Europe est encore chrétienne, l'Europe chrétienne, c'est pas le christianisme, je ne parle pas ici du christianisme, mais de la chrétienté. La chrétienté est un concept englobant de l'Europe, pratiquement jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Et 1648, le traité de Westphalie, quand le pape de l'époque, dont je n'ai plus le nom en tête, en reçoit un exemplaire, il est outré, parce que référence est faite à l'équilibre des puissances et non pas à la subordination à ce concept général de chrétienté.
Même s'il avait un représentant au traité de Westphalie. Est-ce qu'on peut dire que le traité de Westphalie marque l'avènement d'une certaine sécularisation des relations entre États? Mais pour autant, toujours en lisant votre livre, on s'aperçoit que la diplomatie vaticane, finalement, relance ou en tout à toute hégémonie de la papauté en matière de relations internationales, mais que elle a un réseau diplomatique déjà important, que l'on forme ce que l'on va appeler les nonces, et que donc même s'il y a un changement de positionnement du Saint-Siège en Europe, pour autant la diplomatie vaticane va continuer à fonctionner.
Ah oui, et comment? C'est-à-dire la première école des diplomates, elle se crée au Saint-Siège, qui ne s'appelle pas encore le Vatican, hein. Faut faire attention aux mots, effectivement. La situation actuelle est telle que je crois que le Saint-Siège est le troisième État le plus représenté au monde par ses nonces, justement. Ce qui inspire aussi, en général, enfin, ce qui a toujours inspiré, ce qui encore aujourd'hui inspire aussi la diplomatie du Saint-Siège, c'est le temps long. Le temps long. C'est-à-dire, on sait très bien que à la première rencontre, on ne va pas obtenir de résultats, mais la première rencontre ouvre la perspective d'une deuxième qui ouvrira la perspective d'une troisième. Donc, il y a un sens du temps. Vous n'êtes pas sans vous douter que la négociation doit se comprendre de deux manières. La négociation de crise n'est pas du tout la négociation diplomatique du long terme.
Oui, vous évoquez, alors on y reviendra peut-être, la question de Cuba.
La question, exemple même d'une gestion de crise, mais pour McNamara à l'époque, ça sortait du domaine de la diplomatie, qui elle suppose effectivement qu'on se donne le temps d'eux. Et je parle aussi beaucoup alors on change peut-être de sujet, mais du concept de temps qui est capital dans l'esprit de la négociation.
D'où, je le répète, l'actualité de votre livre, notamment quand un régime ou un État qui est confronté à des échéances électorales régulières, on peut penser à Donald Trump aujourd'hui avec les midterms à l'automne, face à un régime pour lequel le temps n'est pas scandé par des références électorales.
Qui se souvient encore que Lavrov, on est au début des années 2000, rencontrant les journalistes européens, donc le ministre
de la Russie.
Toujours actuel, oui, il l'était déjà. Il l'était déjà depuis fort longtemps. Oui. On parlait de long terme. Lavrov, donc, expliquant aux journalistes européens que l'un des problèmes que leur posaient, à eux, responsables russes, les Européens, c'était effectivement le fait qu'il y ait des changements de régime, enfin, je ne sais plus quel est le terme exact qu'il avait été
utilisé. Ou de gouvernement.
Changement de gouvernement, on peut se contenter de ça, effectivement, tous les 5 ou tous les 7 ans, et qu'en conséquence...
Et des remaniements ministériels plus fréquents que
les
changements de gouvernement, des élections.
Avec toutes les conséquences sur la fiabilité des engagements pris à l'international. Donc, construire quelque chose à l'international dans l'incertitude du lendemain, c'était extrêmement difficile dans l'esprit russe, quoi.
Alors on revient au traité de Westphalie, 1648, oui. L'équilibre des puissances. Est-ce que, donc on est au milieu du XVIIe siècle, la grande époque de la négociation, c'est le XVIIe ?
C'est certainement pas le XVIIIe siècle.
Non, mais ça, c'est important. C'est important à souligner.
Je pense que c'est le XVIIe siècle, effectivement, oui. Nombreux sont les traités.
Il y en a au début du XVIIIe aussi.
Il y en a au début du XVIIIe, bien sûr, ne serait-ce qu'avec Utrecht, effectivement, qui a une importance majeure. Mais Utrecht s'est construit dans l'esprit même du traité de Westphalie, déjà. Donc là aussi, on a...
Alors, justement, oui. la négociation suppose la conversation.
Oui.
Parce qu'on est à plusieurs pour négocier, et donc se pose la question de la façon dont on va converser. Alors peut-être qu'on évoquera la question du poids des mots, du sens des mots, de leur adéquation à la réalité, parce qu'il s'agit de savoir de quoi l'on parle. Et là, pour la question de la conversation, je laisse la parole à Axel.
Très important. Oui, c'est ça, oui. Vous évoquez donc le XVIIe siècle comme le véritable siècle de la négociation, et vous évoquez dans votre livre, de manière extrêmement fine, le lien qui apparaît entre la négociation et la conversation. Oui. Et d'ailleurs, on retrouve un peu ce que dit Madame de Staël sur l'esprit de conversation. Elle écrivait « L'esprit de conversation a singulièrement développé dans les Français l'esprit plus sérieux des négociations politiques. Il n'est point d'ambassadeur étranger qui pût lutter contre eux en ce genre. On esquivait les difficultés les plus graves par les nuances délicates des paroles et des manières, et l'on arrivait rarement à se heurter ou à se céder, tant on évitait avec soin l'un et l'autre. » Donc cet art de l'échange, cet art de parler, finalement, c'est ce qui a permis par la conversation, d'établir une atmosphère, une ambiance rendant possible la négociation. Alors vous qui avez été professeur de littérature, comment expliquez-vous cette émergence de l'art de la conversation ?
Alors, effectivement, il faut se rappeler que le XVIIe siècle est le siècle de la conversation par excellence. On peut l'illustrer par bien des exemples, les salons, tout ce que vous voudrez, bien sûr, mais aussi la correspondance. Le développement d'une correspondance qui est une suite naturelle à la conversation telle qu'elle a lieu dans les salons. Maintenant, on ne peut pas ne pas évoquer l'origine italienne, peut-être, de cette, dans le mouvement même de la Renaissance. Est-ce que ce qui s'étend à partir de Florence n'inclut pas aussi un art de parler ? C'est très possible. C'est très possible. Il faudrait s'y pencher de façon particulière. Mais... on entre dans un domaine, non pas flou, mais où on va se contenter d'approximation. Pourquoi je vous dis ça ? J'ai deux, trois exemples en tête. L'art de négocier de Mazarin, par exemple, est incompréhensible sans un art de la conversation, à l'intérieur duquel il faut privilégier l'écoute. Mazarin avait au plus haut point un savoir-faire qui consistait à faire parler son interlocuteur, à le remettre en selle pour qu'il continue de parler, à intervenir avec les questions appropriées pour que, à partir de ce qu'il a dit, il en dise davantage. Donc, ça aussi, c'est un art de la conversation. C'est ce qu'on appelle l'écoute active qui consiste, encore aujourd'hui peut-être, lorsqu'on négocie, à être capable d'écouter à 80% du temps et à parler pendant 20% du temps.
C'est presque de la maïeutique.
Oui, ah oui, oui, oui. Bien sûr, il faut avoir l'esprit écouté, ça s'entend de diverses manières, c'est-à-dire il faut avoir l'esprit avisé et, à travers le flot de ce qui est dit, retenir ce qui va pouvoir ensuite être repris pour aller plus loin dans l'échange. On crée un climat de confiance parce qu'on écoute et on met de la substance réutilisable dans la négociation parce qu'on écoute. Alors, ça ne répond pas à la question que vous avez posée. Pourquoi ça se passe au XVIIe siècle ? Beaucoup de choses, même en matière politique, se sont conçues, voire développées, dans les salons. Je pense au salon de Madame d'Uxelles, que je mentionne dans le livre. À l'opposé de la politique, qu'on peut dire expansionniste, enfin, bon, c'est, même si le terme me chiffonne un petit peu, de Louis XIV, se crée avec le Grand Dauphin, une politique différente, davantage tournée vers la paix et par conséquent la négociation nécessaire. Et donc, c'est à l'intérieur de ce cercle que s'échangent beaucoup d'idées, effectivement, sur l'avenir de l'Europe, cercle que fréquente au plus haut point François de Calière. Donc, l'avenir du XVIIIe siècle, l'avenir qui est le XVIIIe siècle, se prépare effectivement dans le salon de Madame d'Uxelles. Il ne faut pas imaginer effectivement l'atmosphère d'un complot. Non, c'est un mot-clé qui est le mot d'atmosphère. Il y a des atmosphères qui deviennent de plus en plus denses et qui permettent ensuite une certaine réorientation de l'histoire. C'est ce qui se passe dans les salons au XVIIe siècle. Et pour que ça se passe dans les salons, il faut nécessairement, effectivement, que s'y soit développé un art de la conversation. C'est pas la joute, c'est pas nécessairement la joute, hein. La parole ouverte, qui sans cesse rebondit, mais qui s'informe en même temps. Le bureau, le salon de Madame d'Uxelles, on va se faire d'illusions, en même temps, pour les diplomates qu'il fréquentait, c'était un centre d'information. On y recueillait beaucoup d'informations réutilisables ensuite par les diplomates. C'est un bureau d'information, pour prendre l'expression exacte. Tout ce que je vous dis là n'est pas tout à fait adéquat à une réponse satisfaisante, mais la prédominance de la conversation du XVIIe siècle n'est pas niable. Les raisons de cette prédominance sont beaucoup plus confuses.
Ça fera l'objet d'une autre émission.
Oui, sont beaucoup plus confuses.
Est-ce qu'il pourrait y avoir une certaine évolution du langage et des mots eux-mêmes? C'est-à-dire l'apparition de mots oui. Supplémentaires qui permettent peut-être de mieux exprimer aux négociateurs, donc aux différentes parties prenantes, de mieux exprimer leur... véritablement ce qu'ils ressentent, et que finalement, pour en revenir, ça fait penser à ce que disait écrivait Jacqueline de Remilly lorsqu'elle disait que, grosso modo, pour raccourcir, eh bien, quand on n'a pas les mots pour dire les choses, on utilise les points, et que finalement,
est-ce qu'on serait arrivé au XVIIe où les mots, où l'enrichissement du vocabulaire permet de passer du point à la discussion.
Voilà, c'est ça.
Oui. L'esprit qui préside au développement de la littérature existe aussi dans les relations, effectivement, à un niveau qui est celui de l'aristocratie, bien sûr, ou de la haute bourgeoisie. Après, j'ai appris, en rédigeant ce livre, à regarder de plus près, effectivement, l'évolution d'un certain nombre de termes. J'ai plus tout à voir en tête, mais des mots sont utilisés à l'époque qui aujourd'hui ont complètement changé de sens. Alors, je ne vais pas avoir nécessairement des exemples plus précis que ça, mais... En tout cas, en attendant de retrouver ces mots-là...
Vous nous dites aussi, hein, oui. Sans qu'on ait tout de suite retrouvé le mot... Quand vous évoquez l'atmosphère de discussion permanente, et je rebondis, enfin je fais suite aux propos d'Axel, vous dites que cette atmosphère de discussion permanente, elle est liée à l'art oratoire, qui tire profit de l'émergence de l'humanisme. Donc on est dans l'histoire profonde, c'est-à-dire que le XVIIe, il est aussi pour une part héritier de l'humanisme, de la Renaissance, c'est le moment de l'honnête homme. Donc on est quand même au plan philosophique, psychologique, dans l'ère des relations plus ou moins pacifiées. Alors le terme aujourd'hui est un peu galvaudé, mais même si on n'est pas rideau de la frontière, on est entre honnêtes hommes, on converse. Et donc ça aide aussi à résoudre les conflits qu'on n'aurait pas résolus de la même façon 100 ans ou 150 ans.
C'est sur fond, de culture commune. Et puis, assez souvent, effectivement, c'est à travers une langue qui est une langue elle-même partagée, parce que la prédominance du français n'est pas niable.
Alors, il y a aussi les bonnes manières, parce que vous dites, oui. Habileté de la plume et bonnes manières deviennent européennes. Donc, quand on est entre négociateurs qui partagent le même langage, ou la même adéquation des mots par rapport à la réalité, et puis des mêmes bonnes manières... on est quand même plus enclin à s'entendre. Et d'ailleurs, à ce propos, dans une annexe de votre livre, vous citez Callière, dont on parlait en début d'émission, qui écrit dans « De la manière de négocier avec les souverains », et là je reviens à la question des bonnes manières, où il recommande d'être toujours ouvert, doux, civil, agréable, avec des manières aisées, si insinuantes qu'elles contribuent beaucoup à acquérir les inclinations de ceux avec qui l'on traite, au lieu qu'un air grave et froid et une mine sombre et rude rebute et cause d'ordinaire de l'aversion. Et il y a aussi, j'en reviens à la question de l'honnête homme, il y a la maîtrise de l'homme sur lui-même. Il faut surtout qu'un bon négociateur ait assez de pouvoir sur lui-même pour résister à la démangeaison de parler avant que de s'être bien consulté sur ce qu'il a à dire. Donc il y a le langage qui devient enfin universel, en tout cas à l'échelle de l'Europe. Quand on parle des choses, on a les mêmes mots pour les dire. Et puis, il y a cette convivialité, des bonnes manières, qui permet aussi de pacifier les relations.
Et même d'ailleurs, vous évoquez dans votre livre M. Gérard Haro, qui, lorsqu'il était représentant... Enfin, je vous laisse peut-être...
Allez-y.
Lorsqu'il était représentant de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, eh bien, il avait d'excellentes relations...
Comme Puy Schmiz, pour parler crûment.
Avec M. Tchourkine, qui était son homologue de l'URSS, soviétique à l'époque.
Oui.
Et ce qui n'empêche, ce qui ne les empêchait pas de défendre fermement chacun les positions qui leur était demandé de défendre.
Et les prises de bec en public étaient féroces.
Mais à côté, il y avait une véritable camaraderie entre eux. Qui leur permettait éventuellement peut-être d'ouvrir pour leur mandataire des pistes d'ouverture.
On a parlé de bonnes manières et d'art de la conversation, mais j'ai en tête, je me souviens également de ce que j'ai pu lire à propos de Talleyrand. Lorsque les Alliés rentrent dans Paris, Talleyrand, déjà connu de la plupart des grandes cours européennes, bien entendu, par ses qualités personnelles, son entregent exceptionnel. Talleyrand, qui occupait un hôtel avenue des Champs-Élysées, propose simplement au tsar Alexandre Ier, si je ne me trompe pas, de l'époque, de venir de prendre séjour, j'allais dire, chez lui, qu'il l'invite chez lui. Ce n'est pas innocent. Quand on invite, entre personnalités, si on s'invite, on accueille à souper. L'accueil est, comment dirais-je, on ne peut plus attentif.
Oui, on est au-delà du protocole. Il y a des choses qui rapprochent.
Et les soirées se passent tout en, peut-être en étant au tric-trac, je ne sais quoi, à longuement parler. On parle énormément. On n'est pas encore entré dans les négociations du futur traité de Vienne. Sauf que le contact humain, Talleyrand a bien veillé effectivement à créer, avant même que des négociations débutent, des contacts forts avec tous les protagonistes à venir.
Alors vous imaginez, à propos de Talleyrand, c'est l'homme de la du début, fin 18e, début 19e, mais vous dites, oui, Talleyrand parle. Mais vous dites aussi dans votre livre que Talleyrand médite beaucoup, et vous l'imaginez. Peut-être aujourd'hui, pelotonné près de son feu, en train de méditer longuement. Et ça, c'est un autre aspect, parce que pour bien parler, il faut méditer longuement. Et donc là, je ne dis pas que c'est une question spirituelle qui se pose, encore que Talleyrand disait que la théologie, lui, le mauvais évêque, la théologie l'avait beaucoup aidé. En matière de diplomatie, de négociation. Mais le silence est d'or aussi. C'est-à-dire que l'interrogation d'Axel sur la conversation, on peut la lier avec la question du silence dans la négociation.
Du temps nécessaire au silence lui-même. Oui. Quant à François de Callière, dans les recommandations de cette nature, une recommandation peut-être encore plus importante que les autres, à savoir, lorsque vous entrez en négociation, commencez, avant même que toute négociation débute, allez d'abord souper avec votre interlocuteur, allez au théâtre, allez dans les salles de jeu, liez un contact d'humain, parce que de toute façon, l'un et l'autre, vous êtes embarqués dans la même nécessité. Il n'y a qu'un seul bateau et vous êtes tous les deux à bord. Donc autant vous entendre, et bien commencez par parler d'autres choses. Là, chacun va apprendre, va découvrir la dimension humaine de son interlocuteur. Et ensuite, l'entrée dans la, la confrontation aux difficultés va se faire beaucoup plus facilement. Quoi. Voilà. Alors,
mais juste, votre, oui. Votre cher François de Calière, il demande, il revendique pour tout bon diplomate ou négociateur des questions de cœur. Et là, j'en termine sur lui, parce que là encore, dans, ses, dans son, sa manière de négocier, il a une phrase remarquable. Il dit, il ne suffit pas pour former un bon négociateur qu'il ait toutes les lumières, toute la dextérité et les autres belles qualités de l'esprit, il faut qu'il ait encore celles qui dépendent des sentiments du cœur. Il y a plein de points d'emploi qui demandent plus de noblesse dans les manières d'agir. Donc ça en dit long quand même sur l'inné et l'acquis que l'on réclame d'un diplomate.
Il faut écarter toute idée de subterfuge, de ruse. Écarter le. Il n'y a pas d'esprit de ruse dans la négociation. Vous êtes face à quelqu'un qui sait ce que c'est que la ruse. Si vous entrez effectivement dans un comportement de mauvaise foi, il va tout de suite le voir. Tout va à ce moment-là se capoter très très vite. Donc autant afficher effectivement une sincérité contrôlée. La question de la fête reste, de l'affect que nous évoquions au début de l'émission, reste quand même très préoccupante. Laurent Combalbert, que j'évoquais tout à l'heure du GIGN, dit clairement, lorsque vous recevez une proposition qui vous fâche, ne faites pas comme si elle ne vous fâchait pas. Vous avez une réaction, elle se voit, assumez-la. Dites à votre interlocuteur, bon, vous ne pouvez pas ne pas constater que votre proposition me dérange profondément et je vais vous dire pourquoi. Voilà. Donc l'affect ne doit pas être nié, il doit rester sous contrôle, il faut savoir également s'en servir, mais dans un esprit de sincérité. Alors, j'ai sous les yeux effectivement les qualités requises pour faire une sorte de synthèse des qualités nécessaires à, si j'ai encore le temps, nécessaire effectivement.
Nous allons marquer une toute petite pause d'ici une minute, donc je vous laisse achever. Voilà. Dans une minute, on fera une petite pause.
Le postulat de base de toute négociation, accepter que le conflit soit au cœur de la relation humaine. Donc, dénier toute présence au conflit, faire comme si le conflit était une anomalie, c'est de toute façon manquer d'une part de réalisme et d'autre part de toute. C'est fausser toute perspective de réussir une négociation. Donc, partir de l'idée qu'il est normal qu'on soit en conflit.
Donc, normalité du conflit, et on va marquer, cher monsieur, une toute petite pause.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes à l'écoute du Libre Journal de la Défense et aujourd'hui avec Axel Aignel, nous avons le grand plaisir de recevoir Jean-Noël Benoît qui publie aux presses universitaires Rhin et Danube « Le rêve de Sully, pratique de la négociation, une contribution à l'histoire de la diplomatie ». Alors je me rends compte que j'ai oublié quelque chose d'essentiel, c'est que votre livre commence par un titre, « Le rêve de Sully » et qu'on arrive à 45 minutes de l'émission et qu'on n'a pas évoqué le rêve de Sully. Alors tout à l'heure, j'ai cru que vous me tendiez une perche en évoquant le grand dauphin, et puis j'ai cru que Fénelon allait arriver derrière le grand dauphin, mais il n'est pas arrivé. Mais sauf que vous nous disiez quand même, c'était suite à la question d'Axel sur la conversation, c'est que ce 17e, c'est le siècle de l'art des relations entre, enfin au sein de la noblesse ou de la grande bourgeoisie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a cette question du rêve, de l'utopie. Alors Sully, c'est pas Louis XIV. Sully, c'est Henri IV. Et votre livre commence par ce titre, Le rêve de Sully. Et donc, pardon aux auditeurs, mais j'avais oublié d'évoquer cette question. Bon, Sully, qui est-ce et de quoi rêve-t-il?
Sully. Henri IV est mort depuis déjà fort longtemps. Nous sommes dans les années 1640-50, écrit ses mémoires. C'est aujourd'hui un livre encore accessible sous le titre d'économie. Vais-je trouver cela? Je ne sais pas sous les yeux. Mais donc, l'ouvrage est encore accessible aujourd'hui. Voilà, les économies royales, au pluriel. Et dans, c'est une sorte de retour sur expérience, là encore, qui vaut bilan. Nous sommes dans la décennie 1630. Il se plaît à évoquer ses conversations avec Henri IV. Et prédomine dans, dans sa mémoire des discussions nombreuses autour du grand dessein. Le grand dessein, effectivement, était un projet de paix perpétuelle. À l'esprit qu'avait Henri IV de constituer 15 dominations, de répartir les pays d'Europe, donc de restructurer l'Europe en 15 dominations, 15 grandes provinces, avec égalité de territoire et de richesse. Le rêve ne devait pas rester un rêve, parce qu'on veillait bien à constituer
une forte armée permanente qui allait pour maintenir,
cette
organisation.
Inutile de vous dire que quand Henri IV est assassiné, c'est qu'il se prépare une nouvelle guerre et que le projet qui était l'enjeu des discussions est resté lettre morte à ce moment-là.
Mais on retrouve l'abbé de Saint-Pierre aussi,
plus
tard.
Et on retrouve l'abbé de Saint-Pierre. Alors, le projet de paix perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre, d'autres auteurs encore.
Puis plus tard, on a Emmanuel Kant.
Et surtout Emmanuel Kant, effectivement. Emmanuel Kant aborde la question de la paix perpétuelle d'une manière un peu différente, c'est-à-dire en disant que ça suppose d'abord une évolution à l'interne des régimes politiques des différents pays qui comptent s'unir, grosso modo. Mais dans tous les cas de figure, lorsqu'on rêve de paix perpétuelle, on imagine un État regroupant tous les États. C'est ce qui est commun à tous ces projets, à toutes ces utopies. Pour moi, le mot d'utopie n'a pas nécessairement un sens péjoratif. Les utopies créent un dynamisme vers l'avenir aussi. Et puis donc, il y a nécessité d'une instance supranationale de toute façon. Les tentatives du XXe siècle ne sont pas extrêmement louangeuses de ce point de vue-là. Mais l'idée que la paix générale passe par une instance supranationale est une idée constante. Il ne faut pas séparer le rêve, l'utopie de la paix perpétuelle d'un projet d'État regroupant les États.
Mais en attendant, il faut s'entendre, et pour s'entendre, il faut négocier.
Oui. Oui.
En fait, c'était un peu ça la logique.
Oui. Oui.
C'est pour ça que je suis revenu sur ce titre qu'on avait oublié. Mmh. Mais voilà, il y a un horizon.
Oui, oui.
Il y a un horizon, et puis il y a la réalité de tous les jours.
Oui.
Et comment absolument. Fait-on pour, se, pour s'entendre Alors, quand on disait que tout est lié en matière de négociation, et qu'aujourd'hui, parfois, dans la presse, quand on évoque Donald Trump, on dit mais c'est un businessman, c'est l'homme qui d'abord voit les relations entre États au prisme de l'argent. Mais vous, dans votre livre, vous dites attention, quand on regarde les grands traités du XVIIe et puis du début du XVIIIe, la dimension économique et commerciale est déjà très, très prégnante. Et je crois que là aussi, peu de gens s'imaginent. Alors, Westphalie, vous dites qu'il y a juste un petit article, l'article 5, qui en traite. En revanche, je ne sais plus si c'est pour Utrecht ou la paix de Ryswick, vous dites que la dimension commerciale, elle est peut-être majeure. J'aimerais vous entendre
sur cette question. Parce qu'on ne sait pas assez, c'est qu'il y a une montée en puissance du critère commercial dans les grandes
traités de
Ryswick.
Voilà. L'article 5, vous l'écrivez, il souligne l'importance de la liberté du commerce et la liberté de la navigation. Forte actualité aujourd'hui.
Oui. Alors, même si les Anglais ont tendance à cette époque-là à comprendre la liberté du commerce comme étant leur liberté de commercer.
Oui, mais enfin, le sujet est posé.
Le sujet est posé. C'est même un des principes avec le droit des gens et l'équilibre des forces. Ce sont les trois principes fondamentaux qui vont...
Et pour la paix d'Utrecht, en 1710, on est dans les mêmes problématiques.
Ces deux derniers traités, celui de Ryswick et surtout celui d'Utrecht, n'aboutissent véritablement que parce que c'est au terme d'un processus de négociation particulière à teneur entièrement commerciale entre Hollandais, particulièrement les Pays-Bas restent, pas les Pays-Bas mais les Provinces-Unies, c'est pas tout à fait la même chose, les Provinces-Unies restent une puissance, une thalassocratie importante, une puissance maritime considérable. Donc c'est parce que ça se passe, la négociation réussie entre l'Angleterre, grâce à la France bien sûr, entre l'Angleterre et les Provinces-Unies, qu'on peut progresser. Et c'est une négociation strictement commerciale, qu'on peut progresser et aboutir effectivement à conclure sur le plan politique peu à peu. Même chose, ça se passe entre l'Espagne, grande négociation commerciale entre la puissance, entre les Habsbourg d'Espagne et puis les Oranges de l'Angleterre pour la liberté du commerce avec la
Mais
du Sud.
Mais ce qui suppose des compétences, jusqu'à présent dans notre émission, on a traité on a évoqué les qualités de fond du diplomate. Ouais. Mais pour négocier des affaires commerciales, et vous en parlez, la question de la liberté du commerce, elle suppose de recourir à des spécialistes. Oui. Et pour la France, Louis XIV confie en 1710, je lis, à Nicolas Ménager, marchand et député de Rouen au Conseil de commerce, la place de troisième plénipotentiaire pour négocier avec l'Angleterre.
Tout se passe de la façon la plus discrète. Donc, il arrive, il débarque, il est simplement, je sais plus ce qu'il vient négocier, j'ai dû le dire dans le livre.
Se pose la question, si vous voulez,
des œuvres d'art
Pas que des œuvres d'art, parce que l'Angleterre avait négocié avec le Portugal en 1703 l'accès à l'or du Brésil. Oui. Donc, il y a forcément, de façon indirecte, la question de l'accès de l'or brésilien par la France. Oui, oui. Et puis, vous dites aussi que les Anglais ne veulent voir les Amériques espagnoles tomber dans la zone économique française. Oui. Donc, il y a vraiment une question stratégique majeure. Et que compte en définitive la gloire des rois et des armes dans l'affaire ? La politique est une monnaie d'échange aux mains du grand commerce. Et vous ajoutez de façon un peu maligne, au sens premier du terme, si ce n'est pas déjà avoir une vision de l'économie à l'échelle du monde. Et moi, ce que je trouve très intéressant, alors je ne sais pas comment Louis XIV a eu connaissance des compétences de ce Nicolas Ménager, mais là, on n'est pas du tout dans une relation de Louis XIV avec les très grands de son royaume, mais il désigne comme troisième plénipotentiaire un marchand et un député de Rouen au Conseil de commerce. Je trouve ça assez extraordinaire, mais qui reflète bien la place des affaires dans la négociation.
Et ne pas oublier de dire à cette occasion-là le sens extraordinaire des hommes que pouvait avoir Louis XIV. Choisir François de Calière ou choisir Nicolas Ménager, sur quelles indications on ne le saura jamais, mais ce sont des choix qui résultent d'un jugement sur les hommes à la fois rapide et adéquat. Ils sont pas au premier plan de la vie à la cour, absolument pas. Absolument
donc la pas. question du choix des personnes en matière de négociation, quelle que soit l'époque où on se situe, est fondamentale.
Oui.
Aujourd'hui comme hier, se pose aussi la question. Alors au-delà des questions de personnes, moi j'ai trouvé que dans votre livre c'était quelque chose de très intéressant parce que fortement d'actualité, vous évoquez la question du secret.
Ah oui.
La question du secret, à la fois de deux points de vue, l'information qu'il faut aller chercher, c'est-à-dire que le diplomate doit aller chercher l'information préalable à la bonne négociation, et puis après, il y a le secret qui entoure la négociation. Alors, vous donnez deux exemples, c'est le secret qui va entourer, alors là, on est au milieu du XXe siècle, c'est les négociations entre l'Allemagne nazie et la Russie soviétique avant le pacte entre Berlin et Moscou, et puis le voyage de Kissinger à Pékin en 71. Et donc, le fil rouge peut-être de notre émission, c'est de dire, voilà, le diplomate, le négociateur, il a beaucoup de qualités, y compris de cœur, d'écoute. Il y a aussi la façon dont on accède au secret, dont on gère le secret. Ce qui donne aussi un caractère un peu mystérieux aux diplomates.
Mmh. Oui. Alors, cette question du secret interfère avec le développement des réseaux sociaux aujourd'hui. La situation est particulière. Peu, j'imagine, pour un diplomate, être assez délicate parce que au sein d'une ambassade ou au sein d'une institution quelle qu'elle soit, les échanges se font par Internet, enfin par courriel. Alors il y a bien sûr l'outil de la copie cachée, etc. etc. Mais là, c'est une donne nouvelle qui me fait m'interroger beaucoup sur ce qu'il en est du maniement ou du respect du secret. Il faut imaginer par ailleurs que dès qu'il y a soupçon d'une négociation, les médias ne sont jamais loin, non plus. Quoi. Ils n'étaient quand même pas tellement...
Oui, puis la dimension économique et financière des négociations et la révélation de tout secret ou partie de secret a un tel enjeu du point de vue des bourses dans le monde qu'on voit bien qu'à la fois le secret est nécessaire, mais peut-être on le voit aussi avec la question des relations entre Washington et Téhéran, c'est que parfois, on le voit avec les évolutions du prix du baril, c'est que tel ou tel petit mot... Tel petit mot ou tweet du président des États-Unis a une incidence économique, financière forte.
Avec la question, qui se pose évidemment, à savoir est-ce que c'est à dessein ou est-ce que c'est par erreur que certaines informations effectivement circulent. On peut craindre qu'il y ait dans le contexte actuel un abus de la communication. Qu'aujourd'hui, effectivement, il s'agisse davantage de communication que de négociation. Jusqu'où la communication peut entraîner un responsable, jusqu'où peut-il se sentir le droit de se laisser entraîner, c'est une question déontologique importante. Ça relève de l'éthique, effectivement, du bon négociateur.
Alors, nous avons une observation ou question d'un fidèle auditeur. Vous avez parlé de Pascal et Dostoïevski. Alors, cet auditeur ne dit ni Pascal ni Dostoïevski n'auraient pu écrire que la fin justifie les moyens, car il s'agissait de gens profondément moraux et chrétiens. Mais négocier suppose respecter l'adversaire, ne pas se considérer comme détenant seul la vérité. Et alors cet auditeur ajoute, toutefois nous voyons maintenant des négociations utilisées comme des tromperies délibérées, permettant d'éliminer ce que l'on pensait être la partie adverse et de terroriser la population. N'est-ce pas la marque de la fin d'une civilisation occidentale? En d'autres termes, est-ce que aujourd'hui, par rapport aux fondamentaux qui sont l'essence de votre ouvrage, en disant il y a des choses qui ne changent pas depuis le XVIe siècle, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans une ère où tous ces fondamentaux sont remis en cause? Est-ce que...
Alors, c'est une question majeure qui correspond à une... Quand je regarde mon époque à partir de mon petit point de vue, reste effectivement une question à travers laquelle je serais enclin à interroger mon époque. De quoi s'agit-il? Des rapports de l'éthique. On va prendre le mot d'éthique, c'est-à-dire la morale, pour être au plus près du sens des mots, la morale appliquée à une activité professionnelle. C'est ça l'éthique. Hein. Ce n'est pas un équivalent exact du mot de morale. Un synonyme littéral. Alors donc, l'éthique professionnelle du négociateur. Jusqu'où peut-on abandonner l'éthique? Là-dessus, quelqu'un comme Laurent Combalbert, qui encore une fois est un technicien de la négociation, extrêmement doué, qui a un rapport à la langue française étonnamment précis et juste. Même si je me plains qu'il parle franglais quelquefois, ça c'est un autre problème. Bien. Quelqu'un comme lui, donc bien enraciné dans une préoccupation qui est majoritairement la préoccupation de l'efficacité. Il enseigne l'efficacité de la négociation à travers une diversité de moyens absolument étonnante. Bien, mais l'efficacité, son regard porte à l'horizon sur la seule préoccupation de l'efficacité. Il y a quelque chose qu'il redit, sans cesse il dit et redit, il n'y a pas de négociation possible sans le respect d'une éthique. C'est-à-dire, si on ne s'impose pas des limites de nature morale, philosophique, je ne sais pas, en tout cas de nature morale, au-delà desquelles ne jamais aller, et si on y est entraîné, il ne reste plus qu'à donner sa démission, ou à dire à son interlocuteur, désolé, je ne peux pas vous accompagner sur ce terrain-là, et par conséquent, je me retire, nous prenons rendez-vous pour une date ultérieure, mais sur ce terrain-là, qui heurte mes convictions les plus profondes, je ne vous accompagnerai pas. Et donc on a déjà chez François de Calière cette remarque disant, si vous êtes acculé, d'autres expressions évidemment, si vous êtes acculé effectivement à des choses qui sont insupportables à votre conscience et qui sont demandées par le mandant, si le mandant vous demande des choses inacceptables à votre conscience, vous devez lui retourner votre démission. Vous retournez vers lui en lui proposant votre démission. N'a jamais été amené à le faire. Mais très clairement, même lorsqu'on se prétend soucieux seulement de technique de la négociation, on pose un principe irréfragable, on n'y touchera pas, de ne pas aller
au-delà de certaines limites.
De convictions fondamentales qui sont les nôtres, qu'on peut afficher, qu'on peut mettre en évidence. On peut très bien dans la négociation dire, vous savez, dans ce domaine-là, on risque d'entrer en contact avec des préoccupations morales. Je tiens tout de suite à vous dire qu'il y a des domaines dans lesquels... Voilà, ça peut être mis sur la table. Ce n'est pas l'enjeu de la négociation, mais c'est, on indique une bordure.
Ça contribue au cadrage.
Bordure. On va passer à l'intérieur de limites, et voilà qu'elle est... Voilà, c'est un cadrage, en effet. Donc,
En fait, l'efficacité, c'est-à-dire la recherche du résultat, elle dépend quand même
du respect
du cadre dans lequel chacun va être obligé de s'entendre.
Alors, je ne vois pas comment des négociations, même aujourd'hui, dans l'ambiance un peu cynique où il semble que nous vivions, que des négociations puissent aboutir à des résultats dans une atmosphère de totale... Des référencements moral.
Je poursuis avec cet auditeur qui nous pousse un peu dans nos retranchements et dans notre argumentaire. Il ajoute cette civilisation occidentale n'est-elle pas en train de mourir, tuée par le cynisme et l'utilitarisme? Donc là, on est dans une question philosophique qui remonte loin. Alors que les guerres européennes d'antan mettaient en jeu des puissances comparables. Cette pratique est-elle née avec l'hégémonie issue de la puissance industrielle américaine après 1945, avec l'avènement de l'arme atomique, avec le refus de toute négociation avec l'Allemagne, par exemple, et l'exigence d'une capitulation sans condition? Donc, voilà, j'essaie de traduire ce que veut dire cet auditeur. Est-ce que finalement la façon dont on a traité l'Allemagne et la façon dont les Américains ont conclu la guerre avec le Japon n'a-t-elle pas fait entrer la diplomatie dans une ère où la négociation n'avait plus de sens? Donc on n'était plus dans l'ère de la diplomatie. Mais pourtant, regain de la négociation depuis 30 ans. Alors, est-ce qu'il y a eu une rupture sur laquelle finalement on est revenu depuis une trentaine d'années?
La question est complexe là aussi, mais tout se tient effectivement dans ce domaine. D'abord, en ce qui concerne le traité de Versailles, j'ai découvert avec beaucoup d'intérêt que, bien sûr, il n'y a pas eu, les négociations ont continué au-delà de Versailles. Je n'apprends rien à personne dans ce domaine. Mais que par ailleurs, lorsqu'on a structuré les Balkans d'une manière différente suite à la chute, bien sûr, de l'Empire austro-hongrois, on ne l'a pas fait. En totale ignorance de la volonté des peuples. Il y a eu des représentants qui sont allés rencontrer les populations. Donc, dans la mesure... Enfin, on ne peut pas dire que l'intérêt des peuples, tel qu'ils pouvaient s'exprimer sur le terrain, ait été complètement négligé. Maintenant, jusqu'à quel point a-t-il été pris en compte?
Mais il a quand même...
Il ne faut pas l'oublier, ça. On ne s'est pas assez dit... Oui, on est allé sur le terrain, enquêter. Bon, première remarque. Deuxième remarque... Je ne sais pas grand-chose de la sortie de guerre de 1945 en matière de négociation.
Mais là, il y avait une dimension idéologique à la guerre qui faisait que un régime devait être éradiqué.
Oui.
Et donc, l'éradication du régime passait par une capitulation sans condition.
Et avec une tentative de rééduquer l'Allemagne, les Allemands, par un enseignement approprié en 1945-46. L'écrivain von Salomon évoque beaucoup ça. Oui.
Mais aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère.
Oui, alors cette nouvelle ère, on peut essayer d'y voir plus clair. Je vais tenter, vous saurez m'intervenir si ce que je dis pose problème, mais quelques étapes. Alors...
Parce que est-ce que fin de la domination, on le voit bien quand même dans l'époque que l'on vit, l'Occident n'impose plus sa loi comme il l'a imposée depuis 4 siècles, 5 siècles.
Sur le plan des principes, le poser comme un principe de référence l'équilibre des puissances comme on l'a fait depuis Westphalie, ce principe-là n'existe plus, c'est clair. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à équilibrer les puissances entre elles. Bien. On parle du retour des empires, l'expression est souvent utilisée. C'est vrai qu'en 1945, je repense à la charte de San Francisco, qui a, qui a fait espérer un monde multipolaire et par conséquent qui s'équilibrerait en quelque sorte de lui-même, en tout cas où le droit se substituerait à la force. Bien. La chute du mur de Berlin a modifié la donne. On a misé complètement sur le retour, sur le triomphe de la démocratie, non pas simplement à l'échelle de l'Europe, mais à l'échelle du monde.
Alors parfois de façon un peu hypocrite.
De façon un petit peu hypocrite, et puis sans prendre les moyens pour peut-être. Mais en tout cas, s'ouvrait aux diplomates un espace nouveau qui était celui de la négociation multilatérale entre les États-nations. Cette période-là, issue donc de la chute du mur de Berlin, elle a duré une bonne vingtaine d'années, elle n'est pas sans acquis intéressants. Par exemple, des progrès ont été faits en matière de désarmement, grâce à cette vision effectivement plus multipolaire. D'autre part, on a pu, sur cette période d'une vingtaine d'années qui a suivi la chute du mur de Berlin, on est parvenu à élaborer des normes communes à l'échelle mondiale pour régir la communication, les voyages de commerce, par exemple, etc. Bon, donc, mais à ce monde multipolaire se substitue actuellement effectivement une polarisation nouvelle qui est supérieure à la structuration du monde en État-nation. Et qui c'est en train, vous le savez, de chambouler effectivement l'espace mondial, principalement la rivalité entre la Chine et les États-Unis.
Nous mais savons, donc, nous dans savons. Ce cas-là, je prends, enfin, oui. Pas le contre-pied de ce que vous dites, mais au oui. fond, le nouveau monde,
oui.
avec le retour des empires ou ce qu'on qualifie comme tel, il est aussi l'occasion de donner à la négociation toute son importance. On le voit avec les États-Unis et la Chine, c'est-à-dire que soit on est confronté à un risque d'affrontement militaire, ou alors on essaie de négocier. Ce monde-là, il crée des risques, mais en contrepartie, il crée des quasi-obligations de négocier qui ne sont pas inintéressantes.
Oui. Après...
Les États-Unis aujourd'hui négocient avec l'Iran, mais il y a 30 ans ou 40 ans, je ne sais pas, ils n'auraient peut-être pas eu. Ils ne se seraient peut-être pas mis en position de négocier. Ils auraient peut-être cherché un affrontement majeur. Donc, il y a quand même une nécessité pressante de négocier dans le monde
existe.
Dans lequel on est.
Oui, oui. La nécessité existe. On ne peut que la reconnaître et vous suivre. La question reste celle de travailler dans un climat de prévisibilité suffisante.
Alors, il y a prévisibilité, et puis, si on revient sur ces qualités de diplomate que vous avez brossées en utilisant les références de tel ou tel grand diplomate du XVIIe, notamment Callière, c'est que on est dans un monde où aujourd'hui, on est obligé de comprendre l'autre. Enfin, l'idée que je me fais, moi, c'est qu'après 4 siècles de domination occidentale, l'autre, souvent on l'emploie de façon peut-être indue, mais que ce soit l'Indien, le Russe et le Chinois, qui nous étaient quasiment inconnus il y a 40 ans, enfin, du point de vue des ressorts de leur civilisation, on est obligé de les connaître et de les comprendre. Et donc pour nos diplomates, les grandes leçons du XVIIe, elles sont d'autant plus nécessaires aujourd'hui. D'écouter et de comprendre la philosophie et la civilisation d'où vient mon interlocuteur. Oui. Donc il y a ces fondamentaux que vous développez dans votre livre qui restent
oui.
tout à fait d'actualité
oui.
dans
oui.
le monde
oui.
nouveau oui. qui s'ouvre à nous.
Mais entre la reconnaissance de cette nécessité de négocier dans la reconnaissance d'autrui, d'une part, et d'autre part, la politique du coup de force qui déstabilise le temps lui-même et qui rend impossible effectivement le développement de la négociation dans la durée, comment trouver l'adjointement entre les deux? La pratique du coup de force, le passage en force n'est pas compatible avec la nécessité du temps long inhérente à toute négociation qui puisse aboutir à un résultat. Quoi.
Le coup de force, en fait, s'apparente à la gestion de crise, en fait.
Oui.
C'est qu'en fait, parce qu'il y a une distinction que vous faites entre la négociation oui. et la gestion de crise. Et finalement, la négociation, c'est ce qui s'inscrit dans le temps long.
Oui.
C'est-à-dire que, voilà, concevoir que, quand on est d'un pays A, concevoir que le pays B existe. Que oui. l'autre pays oui. existe et qu'il a aussi légitimement des aspirations et qu'il faut arriver par la négociation à à faire que c'est les aspirations deviennent non pas antagonistes, mais complémentaires, au contraire. Et puis la gestion de crise qui est au contraire en disant non, on veut tout avoir, c'est nous qui avons raison, vous qui avez tort, et tout prendre. Et finalement, ce sont deux approches qui sont différentes et pas très faciles peut-être à coordonner.
Et on peut craindre que la politique telle que menée par les responsables américains actuels, je n'ai pas compétence pour juger, c'est pas dans cet esprit-là que j'aborde la question, ce sont des interrogations que je vous propose et que je propose aux auditeurs, hein, qu'on ne me donne pas une compétence dans ce domaine au-delà de ce que je peux dire en matière de négociation. Mais j'étais en train de dire effectivement que comment accorder d'un côté la négociation nécessitant le temps long et d'autre part l'intrusion dans la négociation, ou ce qui veut s'appeler tel, de principes qui ressortissent effectivement à la crise, c'est-à-dire l'ultimatum, c'est-à-dire le coup de force, c'est-à-dire la menace, c'est-à-dire le changement du discours du jour par rapport au discours de la veille, ça fait véritablement problème. Alors, on a, à propos du président des États-Unis et de la manière dont il mène les affaires internationales, évoqué, rappelé que c'était un homme d'affaires, soit. Quand je m'étais arrivé de parler avec des chefs d'entreprise, quelquefois, comme ça, très occasionnellement, à l'occasion de ce salon du livre, on rencontre beaucoup de monde, figurez-vous. Et donc, effectivement, ils me disent, oui, il arrive assez souvent que dans une négociation commerciale, on dise un jour quelque chose de très différent par rapport à ce qu'on a dit la veille. Ça, c'est un état d'esprit propre à la négociation commerciale qui se fait en principe d'avancer le plus vite possible. Et quand on dit un jour quelque chose d'assez différent de la veille, on le fait valoir comme étant la marque d'une bonne volonté qui va permettre d'avancer. Voilà. Si on retrouve ça, alors, bon, donc c'est possible, c'est une pratique existante dans la négociation commerciale. Dans la négociation diplomatique à l'échelle internationale, je ne sais pas si ça peut être pratiqué, vous voyez. L'imprévisibilité du discours, je l'ai déjà dit tout à l'heure, reste un facteur de déstabilisation où la négociation sera la première perdante. Alors, il y a aussi cette posture du surjeu qui nous donne l'impression au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle était une époque du théâtre, et déjà aussi le XVIIe siècle. Mais on savait faire la différence entre le surjeu théâtral et puis la réalité qui exige un peu plus de discrétion. La réalité de la négociation n'est pas celle du théâtre. On va au théâtre la veille, au soir, pour faire connaissance avec son interlocuteur. Mais quand on discute le lendemain des affaires sérieuses, on n'est plus au théâtre. Alors que là, on a l'impression effectivement qu'il y a une manière de faire ce que j'appelle le surjeu, qui consiste à être sur le théâtre à tout instant, à être sur la scène à tout instant, avec un abus de la communication. Même chose, c'est très déstabilisant pour un négociateur.
Alors, j'ai une question.
Oui, l'emploi de la pression, je finis simplement de dire. Oui. L'emploi continuel de la pression aussi est déstabilisant. Là, c'est peut-être à dessein. Mais voilà, donc ça me laisse avec une impression, un certain sentiment de malaise quand l'esprit de la négociation de crise pénètre dans l'esprit de la durée des choses qui est propre à la négociation internationale, en tout cas telle que je l'ai.
Et hors sur la scène actuelle, l'Occident est face à des régimes ou des empires ou des États qui, eux, n'ont pas la même notion du temps que nous. Alors, c'est une question qui revient à vos propos intimistes du début de l'émission. C'est un auditeur qui nous dit... alors, belle émission, merci. Bonjour messieurs, le conflit, avez-vous dit, sauf erreur, est la situation normale de l'humanité. Héraclite avait dit... Polemos pater panton, le conflit est le père de tout.
Ah oui.
Or, le christianisme bouscule cette vision des choses et nous désarme. Qu'en pensez-vous? Alors, vous avez commencé l'émission sur le conflit, il nous reste 7-8 minutes, et voilà que nous revient comme en boomerang votre première observation.
La préoccupation du conflit est une préoccupation du chrétien que je suis. Je vais peut-être me contenter de cette réponse. Mais je me reconnais dans ce qui est dit à propos, effectivement, du message du Christ, effectivement.
Et on revient à la Genèse, d'ailleurs.
Mais la paix, je ne vais pas me mettre à citer certains passages de l'Évangile où la proposition, c'est de tout bousculer, d'abord, pour effectivement avoir chance de se constituer soi-même en un univers personnel juste. Effectivement, moi, la leçon de Dostoïevski est entièrement parlante, parce qu'il faut se perdre pour avoir chance de se trouver, sachant que se perdre, c'est risquer véritablement de se perdre. Ça ne garantit pas.
Il faut regarder le risque en face.
Il faut regarder le risque en face, oui. Oui. Mais je ne vois pas un antagonisme aussi fort entre l'idée du conflit comme inhérent à la vie et l'idée de la paix, qui pour moi est une sortie du conflit, qui est à justement négocier, et négocier personnellement, de façon constante.
C'est-à-dire que, comme chrétiens, nous ne considérons pas que le conflit soit le père de tout. En cela, nous différons d'Héraclite.
Oui,
Mais en revanche, comme nous sommes réalistes sur la nature humaine et sur l'histoire, dont nous savons que pour une part elle est tragique, nous ne méconnaissons pas la question du conflit. Oui. Et comme nous ne la méconnaissons pas, nous savons que la négociation
est la bonne réponse.
Donc je crois que c'est voilà ce qu'on peut...
Nous parlions des responsables américains, brusquement, si vous me permettez.
Oui, allez-y.
Oui, je crois que nous en parlions tout à l'heure avant le début de l'émission, mais une explication est quelquefois proposée dans la presse par l'application de la stratégie du fou, ou théorie du fou. À savoir, il faut feindre, je cite là la phrase de Machiavel, qui est le premier, effectivement, s'est intéressé à cette pratique de l'écart de conduite délibéré. Machiavel, dans un passage des discours sur la première décade de Tite-Live, dit... Il parle de l'avantage qu'il y a à feindre, pour un temps, d'être fou. Mais il dit bien pour un temps. Il dit que ce n'est pas une règle systématique. On peut trouver son avantage.
Et feindre.
Attention. Alors, justement, la question qui trouble tout le monde, c'est le partage difficile à faire entre ce qui est une posture délibérée, ce qui serait une posture délibérée de la part du président des États-Unis, et ce qui serait quand même un lâcher permanent de ballon de l'affect. C'est pas à moi d'en décider, mais la question reste posée.
Faire référence à Machiavel aujourd'hui sur les plateaux télévision serait fort utile. Oui,
ah oui.
Oui. Vous ne seriez pas le bienvenu. mais ça serait fort utile.
On pourrait alors faire allusion à Nixon. Nixon, très délibérément, moi, de la guerre du Vietnam. J'ai sous les yeux un passage, vais-je avoir le temps, vous me le direz. C'est une stratégie, la stratégie du fou. Qui d'ailleurs provient de la théorie des jeux. Hein. Et Kissinger avait, dans ses études, dans son parcours universitaire, passé par l'étude de la théorie des jeux. Eh bien, la stratégie adoptée par Nixon, telle qu'il l'a définie, j'appelle cela la théorie du fou, à propos du Vietnam. Hein. Je veux que les Nord-Vietnamiens croient que j'ai atteint le point où je pourrais faire n'importe quoi pour mettre fin à la guerre. Nous leur ferons passer le mot. Pour l'amour de Dieu, vous savez que Nixon est obsédé par le communisme. Nous ne pouvons pas le contrôler lorsqu'il est en colère. Et cet homme a la main sur le détonateur. Donc c'est très clairement Nixon qui a dit « je mets en pratique la théorie ». Mais alors, d'une façon consciente, délibérée et déclarative. C'est on ne peut plus clair.
Oui, puis dans une époque nous n'avions pas encore des tweets quotidiens, matin, midi et soir, l'ampleur donnée à
certains propos par la communication tous azimuts. Vous savez, en lisant ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que Brejnev a dû comprendre de ça? Qu'est-ce qu'il a compris de ça?
Mais vous qui connaissez bien, les Russes, vous avez peut-être la réponse à votre question.
On retombe sur la nécessité pour les Russes du temps long. C'est ce qui se passe, ce qui est excessif est accidentel.
Et insignifiant, comme aurait dit l'évêque d'Autun.
Pas suffisant pour porter un sens à prendre en considération. Quoi.
Je crois que nous avons encore une observation d'un auditeur. C'est une observation. Si le régime nazi devait annihiler, cela n'empêchait pas a priori une négociation avec l'opposition, en particulier avec les résistances militaires. Voilà, et toutes les tentatives de contact de militaires allemands proposant une négociation sur la base d'une élimination des nazis et d'une paire avec les anglo-saxons étaient sans réponse. Ce qui a été rapporté par un historien britannique, Anthony Calf Brown, dans La guerre secrète.
Voilà. Vous savez à quoi ça ressemble? À un des risques majeurs que doit à tout prix éviter le négociateur, ce qu'on appelle le positionnisme. C'est-à-dire, je commence, j'arrive, et je dis voilà quelle est ma position. Ensuite, je croise les bras et je fais comprendre à mon interlocuteur qu'il n'a pas d'autre possibilité que de s'y rallier. Malheureusement, à écouter quelquefois certains discours tenus dans les médias par peut-être même des responsables syndicaux, trop souvent les déclarations entendues ressortissent à cette espèce de positionnement.
Sans issue positive possible.
On ne parle que pour dire que la négociation s'arrête alors qu'elle n'a même pas commencé. Grande méfiance à l'égard du positionnisme.
C'est quand on ne cherche que la capitulation, finalement.
Oui,
voilà,
c'est ça. Encore une fois, la manière de Rome, qui pouvait s'adosser à une puissance suffisante pour effectivement imposer son point de vue. Mais l'Europe n'est plus en mesure, effectivement, de pratiquer ce genre de
mise. Oui, puis ça remet en cause ce que vous nous avez dit sur la question de l'éthique et son efficacité appliquée à la négociation.
Les trois dangers de la négociation, justement, je les ai sous les yeux. L'évitement, faire comme si le conflit n'existait pas. La soumission, c'est-à-dire s'incliner devant le... commencer par s'incliner devant ce que dit l'adversaire. Il n'attend pas ça, l'adversaire.
Ou affirmer brutalement une position dont on dit que de toute façon elle ne changera pas.
Le positionnisme dont on parlait tout à l'heure. Ou le passage en force. Le passage en force, on peut y arriver en passant en force. Le passage en force crée une situation qui de toute façon demeurera instable. L'histoire le montre.
Eh bien écoutez, mon cher monsieur Jean-Noël Benoît, nous avons passé, je crois, sans flagornerie, une heure et demie passionnante avec vous.
Mais je peux retourner cette remarque ? Je ne savais pas où j'allais, donc...
Écoutez, je pense que...
On a bien navigué, je crois. J'ai fait beaucoup de voiles autrefois.
Bon, bah écoutez, vous savez que...
On a tiré quelques bords, quand
même. Vous êtes... Oui, on a tiré quelques bords, mais malgré tout, on revient au port d'attache, qui nous fait considérer que même avec les grandes évolutions du monde, la négociation est indispensable, qu'il y a quand même quelques fondamentaux qui n'ont pas changé. Oui. Et que le rêve de Sully, certes, avait peut-être, mais vous nous avez dit non, mais un peu d'utopie quand même, mais qu'en attendant la paix universelle de Kant ou de l'abbé de Saint-Pierre, il faut s'entendre, et pour s'entendre, il faut négocier, que ça suppose quelques règles et quelques connaissances de celui qui est en face de soi avec lequel on négocie. Et donc je pense que vous nous avez été d'une profonde aide pour comprendre ce qui est en train de se passer sur le théâtre du monde. Et à ce titre-là, Jean-Noël Benoît, Axel et moi, nous vous remercions de tout cœur.
C'est vraiment moi qui vous remercie, de toute façon, de tout cœur aussi.
Merci beaucoup.
Merci.
Vous venez d'entendre le libre journal de la Défense, dirigé par Philippe Nicolardeau, assisté d'Axel Aignel, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, lundi 20 avril 2026, de midi à 13h30, et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse de toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie. 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.